Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où la fantaisie le dispute au journalisme, grâce notamment aux interventions toujours gratinées de Céline Dacosta. Bon,
la lune sera la plus grosse que jamais aujourd'hui. Elle sera à son... C'est pas apogée, c'est périgée.
Et non pas périnée. Personne n'a entendu, ça va.
Et dans la drôlatique, Céline Dacosta rencontre la consciencieuse Céline Kallmann. On assiste, vous l'imaginez, à un choc au sommet des cerveaux.
Tu connaissais, toi, Céline ?
Comment ?
Tu connais ?
Non.
Ah, tu vois ?
Enfin, maintenant, oui.
Oui,
mais avant, non.
Ouais, moi non plus.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi le recul analytique de Fabrice d'Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui, ce matin, alors que s'ouvre au Vatican un sommet historique sur la pédophilie et alors que le film de François Ozon sur l'affaire Barbarin secoue l'église, Fabrice revient sur la position, ou plutôt les positions successives du Vatican concernant la pédophilie depuis le 19e siècle.
Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 21 février. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 21 février avec celle qu'on appelle désormais en interne l'amiral. Je vous invite à la suivre en vidéo sur europe1.fr. C'est un accoutrement, disons, original que porte aujourd'hui Céline Kallmann au sommet de l'élégance à la une
bonjour
ce matin.
Bonjour Mathieu, bonjour
Céline
à tous.
Kallmann.
Emmanuel Macron veut bannir la haine antisémite lors d'un discours hier soir au dîner du CRIF. Le chef de l'État a détaillé toute une série de mesures inédites, dont une prochaine loi pour lutter contre la haine sur Internet. Un sommet historique s'ouvre ce matin au Vatican. Le pape a convoqué à Rome tous les présidents de conférences épiscopales pour réfléchir à la lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église. Et puis la victoire haut la main du PSG hier soir face à Montpellier. 5 buts à 1. Jérôme Lacroix y reviendra en détail dans son journal des sports.
Europe 1.
J'aurais souhaité que ce dîner se tienne dans des circonstances plus sereines. Voilà ce qu'a soufflé Emmanuel Macron lors du 34e dîner du CRIF hier soir au Carrousel du Louvre à Paris. Le chef de l'État a détaillé un arsenal inédit de mesures pour lutter contre l'antisémitisme dont les actes ont bondi de 74% en un an.
Notre pays, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe et la quasi-totalité des démocraties occidentales, est confronté à une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à cet inacceptable, il serait faux de dire que nous n'avons rien fait. Nous avons condamné beaucoup, adopté des plans, souvent, depuis des années et des années, voté des lois parfois, mais nous n'avons pas su agir efficacement. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien pour cela. Trop d'indignation, trop de mots, pas assez de résultats.
Emmanuel Macron avec Jean-Rémy Baudot. Dès le mois de mai, une proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet va être déposée. Les policiers, gendarmes ou magistrats vont être mieux formés aux préjugés antisémites. Par ailleurs, un audit sur les établissements touchés par la déscolarisation des enfants de confession juive va être mené. Et puis la garde à vue de l'homme soupçonné d'avoir proféré des injures envers Alain Finkielkraut à Paris samedi dernier a été prolongée hier soir pour une durée maximale de 24 heures.
114 présidents de conférences épiscopales de tous les continents se retrouvent à Rome jusqu'à dimanche.
Oui, il y aura aussi des victimes de pédophilie au sein de l'Église. Au total, 190 participants pour ce sommet inédit qui doit marquer une nouvelle étape supplémentaire dans la lutte contre les abus sexuels. Ce matin, le pape François va prendre la parole. Il clôturera le sommet dimanche. Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, souhaite une prise de conscience.
Ce sommet des présidents de conférences autour du pape, j'en attends une expérience de révision un petit peu de chacun de nous, de prise de conscience de ce drame qu'est la pédocriminalité ou la pédophilie. Parce que pour avoir rencontré un certain nombre de victimes, j'étais assez bouleversé par ces blessures et ces traumatismes qui marquent la vie de ces personnes. Et c'est inimaginable, quoi. J'ai souvent entendu les victimes dire on n'a pas besoin que de mots, hein, on a besoin aussi d'actes.
Monseigneur Pontier avec Virginie Riva pour Europe 1. Cécile Bourgeon est sortie de prison. La Cour de cassation a ordonné la tenue d'un nouveau procès en appel pour la mère de la petite Fiona. Sa condamnation à 20 ans de prison pour coup mortel porté à sa fillette en 2013 a été annulée. Et puis un jeune homme de 16 ans condamné hier à 20 ans de réclusion pour l'assassinat d'une femme de 88 ans à Montbéliard dans le Doubs. Il avait 15 ans au moment des faits.
Après 7 mois de travail et 34 auditions, la commission d'enquête sénatoriale a rendu son rapport hier sur l'affaire Benalla.
Oui, rapport qui a dénoncé la place excessive prise par Benalla dans la sécurité du président de la République. La commission a demandé la saisine du procureur de Paris pour faux témoignage. Pour Philippe Bas, le président de cette commission, l'affaire partie de violences commises en marge du 1er mai résulte de dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État.
Les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Du point de vue du bon fonctionnement de l'État, Les informations qui se sont accumulées ensuite sont sans doute plus graves encore que les événements survenus en marge de la fête du travail. Nous avons, par conséquent, enquêté sur le fonctionnement de l'État. Nous avons constaté des dysfonctionnements. Nous avons proposé des recommandations pour qu'il y soit mis fin. J'espère que les travaux de la Commission des lois seront utiles, qui seront utiles aux Français, bien sûr, mais aussi utiles à l'exécutif.
Philippe Bas, président de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a dénoncé beaucoup de contre-vérités dans le rapport d'enquête. L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles, a-t-il dit à l'issue du Conseil des ministres. Échec des négociations entre syndicats et patronats sur l'assurance chômage. Les discussions sont heurtées sur les contrats courts. L'État va devoir reprendre la main après 3 mois et demi de pourparlers. Denis Gravouille de la CGT n'a pas caché son amertume à la sortie des négociations.
Le MEDEF a voulu nous présenter un texte, on l'a même pas fait d'interruption de séance parce que c'était indigent. Il y a juste un nouvel article pour dire on va donner 5 euros au CDD. C'est vraiment se moquer de nous, donc on a tous décidé que du côté des syndicats salariés que nous ne rentrerions pas dans ce jeu-là. Donc il n'était pas possible de continuer à négocier. C'est l'échec d'une certaine vision du paritarisme, et une vision en particulier emportée par le MEDEF, et là je dis bien le MEDEF et pas le patronat dans son ensemble, qui a décidé d'imposer ses vues par du lobbying auprès du gouvernement, plutôt que dans le respect de discussions et de négociations avec les organisations syndicales.
Denis Gravouille avec Yasmina Katou pour Europe 1. Et puis dans l'actualité aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Alain Juppé va passer son audition devant la commission des lois à 15h. C'est ensuite Jacques Mézard proposé par Emmanuel Macron qui sera entendu. Des votes sont ensuite prévus pour confirmer l'entrée des deux hommes au Conseil constitutionnel.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Très beau journal Céline, et conformément à ce que vous m'avez demandé hier suite aux protestations un peu véhémentes de votre mari...
Oui. À ce petit qui... mec qui se tape ma
femme. Oui, qui semble un peu là de mes fines allusions quant à notre relation supposée. Je vous rassure, je ne mettrai plus jamais en doute votre fidélité. Voyez, je n'ai pas prévu de son. Je vous dis simplement, bonne journée Céline. Il y a autre chose que je peux faire pour vous?
Je boirais bien un petit verre.
Sur votre penchant pour l'alcool, en revanche, je n'ai pas eu de consigne. J'y vais franchement.
Europe 1. Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, cet historique, le fact-checking par l'histoire. Grâce à Dieu, le film de François Ozon évoquant l'affaire du diocèse de Lyon a finalement été autorisé à sortir. Un sommet sur le sujet s'ouvre aujourd'hui, on en a parlé au Vatican. Justement, Fabrice revient sur la position, plutôt les positions successives du Vatican concernant la pédophilie depuis le 19e siècle.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Et après dissipation des brouillards matinaux, il va faire très doux cet après-midi.
Oui, c'est vrai. Hein. La moyenne ira de 13 à 21 degrés du nord au sud, avec 15 degrés à Metz, 17 à Paris, 20 degrés à Bordeaux. Une douceur accompagnée de soleil qui brillera largement cet après-midi. Après dissipation, vous l'avez dit, de ces brumes qui sont surtout présentes sur la moitié nord et qui vont avoir d'ailleurs un petit peu de mal à dissiper de la Haute-Normandie à l'Alsace cet après-midi. Attention donc au brouillard ce matin et couvrez-vous, hein, parce que ce matin, il fait frais, 0 degrés à Strasbourg, 12 à Biarritz. À Biarritz, on attend 21 degrés cet après-midi. Il en fait 6 à Paris.
Eva Rock.
Depuis lundi, vous l'avez encore entendu il y a quelques minutes, Anne Le Gall nous donne plein de bons plans pour les applications. On vous a demandé depuis ce matin 5 heures, celles dont vous ne pouvez pas vous passer, que vous utilisez tous les jours. Et bien Quentin nous répond sur Twitter avec le hashtag Europe 1 pour s'informer Le Monde, Courrier International, Run Static pour se motiver à courir, CityMapper pour bien se diriger en ville, et puis l'appli Horloge pour se réveiller. Ça me fait penser à l'horloge connectée de notre cher Grégoire Martinez qui nous a quitté.
Vous allez dire feu Grégoire
oui.
Martinez.
Oui, non, quand même pas.
Il n'est pas décédé, il a juste changé de métier.
Et vous êtes très nombreux à nous dire Yuka, l'application contrôler les valeurs nutritives des aliments que nous utilisons aussi dans De Beaux les Copains.
Merci beaucoup Eva Rock.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il nous a rejoint dans ce studio. Il est l'homme de tous les défis, journalistiques, sportifs, mais aussi humoristiques, comme on a pu le constater hier alors que nous parlions des propriétés cocasses d'un plat de sa région, le cassoulet.
Un mois de cassoulet, hein. Mais après c'est régime, hein. Encore que les haricots c'est bon, c'est naturel, hein. Hop là, voilà. Oh là.
Allez, bon vent.
Ouais. Voici cet humoriste qui, lui, n'a jamais pratiqué le plagiat, mais qui peut-être aurait dû. Jérôme Lacroix, le journal des sports. À la une montagne andalouse.
Eh oui, une montagne andalouse. Les footballeurs rennais se trouvent ce matin au pied de cette montagne et ils rêvent du premier huitième de finale de Ligue Europa de l'histoire du club. Et pour cela, eh bien, il faudra dominer en Espagne ce soir les Sévillans du Betis en 16e de finale retour. 3 buts partout. À l'aller en Bretagne, Cyril de la Morinerie.
14%, ce sont les chances de qualification pour Rennes. Elles ne sont pas énormes évidemment, mais l'entraîneur rennais positive. c'est plus d'une chance sur 10. Donc, on a une chance, rappelle Julien Stéphan, le fils de l'entraîneur adjoint des Bleus champions du monde, Guy Stéphan. C'est lui qui dirige aujourd'hui le Stade Rennais. Une équipe bretonne qui devra faire mieux qu'au match aller. Les Rennais menaient 3-1 avant de se faire rattraper. Mais surtout, le Bétis a fini avec près de 75% de possession de balles. Le défi sera donc de taille pour les Rennais, battus le week-end dernier en championnat par le Stade de Reims et qui devra se passer en Espagne des services de son capitaine Benjamin André, suspendu. Si Rennes veut survivre dans l'arène bouillante du Benito Villamarín, il faudra lâcher les chevaux et s'appuyer notamment sur l'ancien parisien Atem Ben Arfa, toujours capable de coups d'éclat.
Bétis Séville, Rennes, coup d'envoi 21h hier soir.
Attention pour Rennes, hein, pas de bêtises.
Oui.
Ok, vous pouvez enchaîner.
Pourquoi ? C'est pas à Cambrai les bêtises ? J'ai compris.
Bêtise Séville.
Ah, bêtise. Oui, ah, pardon, oui, je croyais oui. Cambrai.
Ah, les meilleurs vannes, c'est ça qu'on les fait quand il faut les expliquer
pas
derrière.
C'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, désolé.
Un peu plus bienveillant.
Hier soir, Ligue des Champions, dernier huitième de finale aller, renversant scénario à Gelsenkirchen où les Allemands de Schalke 04 ont été finalement battus 3-2 à domicile par des Anglais de Manchester City réduits à 10 et qui étaient encore menés 2-1 à la 85e minute.
Invraisemblable scénario.
Toute fin de partie. Oui, dans l'autre match, victoire de l'Atlético de Madrid d'un très bon Antoine Griezmann qui n'a toutefois pas marqué 2-0 face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Match retour le 12 mars.
Le PSG de son côté accroît son avance en tête de Ligue 1.
Plus 15 points désormais sur les Dauphins lillois, ce après hier soir un succès 5-1 au Parc des Princes en match en retard sur des Montpellierains. Pas récompensé de leurs bonnes intentions de jeu, on notera un superbe but sur coup franc direct de l'Argentin Di Maria et le 20e but cette saison en championnat de Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1.
Direction maintenant, Jérôme, le monde des B-Boys et des B-Girls.
Eh oui, je vous parle de breakdance, cette danse. C'est spectaculaire, c'est du hip-hop. On appelle, oui, les pratiquants B-Boys et B-Girls, oui. Et ils pourraient bien se retrouver d'ici peu athlètes olympiques. Peut-être en 2024 à Paris, le comité d'organisation devrait annoncer aujourd'hui que la breakdance fait partie des possibles sports additionnels pour dans 5 ans. Avec le surf, l'escalade et le skate, la France olympique va demander au comité international d'étudier la question qui se prononcera définitivement fin 2020. Un mot de handball avec la 14e victoire en 15 matchs de D1 hier soir pour le PSG, handball 35-30 à Toulouse. Les Parisiens premiers du classement, 3 points devant les Nantais, eux aussi victorieux hier soir 39-31 face à Istres.
On termine, pardon, avec l'histoire du jour.
Chacun
Jérôme.
Se fera son avis. La Ligue de foot professionnelle sanctionne ce matin le FC Nantes pour la récente utilisation par ses supporters de fumigène lors de matchs de Ligue 1. 21 000 euros d'amende au total, c'est la règle. Mais ce qui fait débat, c'est que l'utilisation de ces fumigènes, eh bien, c'était pour les hommages à Emiliano Sala, leur ancien joueur décédé dans un accident d'avion.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Céline, vous qui le connaissez par cœur, quel est le plus gros défaut de Jérôme ?
Il n'a pas du tout le réflexe de retirer sa main.
Sacré GG. Allez, on passe à la chronique histoire de cette matinale.
Europe 1.
Je vous ai compris. Ich bin ein
Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Delmeda.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui s'ouvre au Vatican, on le disait dans le journal, un sommet international sur la question des abus sexuels et de la pédophilie dans l'Église. Est-ce un tournant historique, Fabrice ?
Bah oui, car longtemps, l'Église a voulu garder ses questions secrètes. Pourtant, les signaux d'alerte ont été nombreux et répétés. En France, par exemple, dès le milieu du 19e siècle, la presse a attiré l'attention sur des crimes abominables commis par des prêtres. Mais l'Église catholique se défendait en disant que les laïcs en faisaient autant. Pourtant, la critique s'intensifie avec la querelle scolaire vers 1880. Le Petit Parisien, un journal très populaire, en fait presque une rubrique. Et une inquiétude apparaît. Faut-il vraiment laisser des prêtres avec les enfants ? Les congrégations religieuses qui, depuis des décennies, s'occupent des petits, sont-elles fiables ?
L'alerte était lancée. Qu'a fait l'État ?
Entre les lois de 1881, celles de Jules Ferry, et les lois de 1901, il a limité la place des congrégations religieuses dans l'enseignement, mais au motif plus large que leur action était hostile à la République. Ce mouvement a d'ailleurs atteint son apogée avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Mais la parole spécifique des enfants victimes de prêtres n'a guère été entendue par l'État ensuite.
Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ?
Le scandale de Boston en 2002 aux États-Unis a mis en évidence les réseaux pédophiles et les solidarités dont ils bénéficiaient dans et en dehors de l'Église. Cela a fait écho aux autres scandales en Europe et ailleurs. Au Vatican, le tribunal de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, entre 2001 et 2010, a jugé 3000 cas d'abus sexuels de prêtres. Cette action et les excuses présentées par Benoît XVI pour les victimes irlandaises en 2010 ont amorcé une prise de conscience. Le sommet actuel montre qu'aujourd'hui, l'Église ne veut plus traiter ces questions comme des faits isolés. Le pape François en plaçant les victimes au cœur de cette rencontre mondiale, indique clairement à ses fidèles qu'il faut rompre avec le silence et le crime.
Merci beaucoup Fabrice Almeida. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font à 6h20. C'est l'ancien ministre actuel maire de Meaux, Jean-François Copé, qui sera avec nous.
Mais non.
Mais si, Céline, il co-signe un livre au titre choc. L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie? Son co-auteur, le futurologue Laurent Alexandre, pense que face au progrès de l'IA, l'homme politique est appelé à disparaître. Jean-François Copé, lui, mais en même temps c'est une de ses marques de fabrique, veut encore y croire.
Il est 6h15. Il est 6h17, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Nouvelle définition de l'antisémitisme, proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet, dissolution de 3 associations d'extrême droite. Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces hier soir lors du dîner du CRIF. L'affaire Benalla, le gouvernement a dénoncé beaucoup de contre-vérités dans le rapport du Sénat présenté hier matin. La commission d'enquête a demandé la saisine de la justice pour faux témoignages de la part d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, tous deux en détention provisoire. Enfin, patronats et syndicats ont acté l'échec des négociations sur l'assurance chômage. C'est désormais le gouvernement qui va prendre le relais des partenaires sociaux.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 21 février. L'actualité, c'est aussi ce livre intriguant, peut-être parce qu'on n'attendait pas son auteur sur ce sujet-là. Livre paru il y a quelques jours intitulé « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» aux éditions La Thèse. Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous co-signez ce livre avec le docteur et futurologue Laurent Alexandre. Il est question de l'irrésistible ascension des nouvelles technologies numériques, des progrès, des menaces qui y sont liées. Et vous démarrez même votre parti avec un scénario à la Black Mirror. Le 13 mai 2042, jour de passation de pouvoir à l'Élysée, et le nouveau locataire de l'Élysée, on découvre que ce n'est pas vous, Jean-François Copé, mais un humanoïde, un robot doté bien sûr d'intelligence artificielle. Alors, c'est juste une entrée en matière accrocheuse ou bien c'est un vrai risque pour vous qu'un jour, l'IA, l'intelligence artificielle, tue carrément ou rende caduque la politique?
Bah, écoutez, en tout cas, en posant la question, je considère que tout dans la vie doit être mis sur la table. Quel est l'objet de ce livre? Et c'est en ça d'ailleurs que ça a été un travail vraiment passionnant avec Laurent Alexandre. Bah, c'est d'évoquer un sujet qui est sur une invention, l'intelligence artificielle, le numérique, aussi importante que sous la préhistoire, le feu, la machine à imprimer de Gutenberg, au 19e siècle, l'électricité, la vapeur, puis la pénicilline, c'est-à-dire ces inventions qui transforment le monde. Et donc, les incidences aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, sont énormes et elles bousculent la politique.
Et alors donc, vous n'avez pas le même avis tout à fait sur ce point politique que votre co-auteur. Lui dit « L'intelligence artificielle est une bombe à fragmentation pour notre démocratie ». Vous, vous êtes moins pessimiste.
Alors moi, mon point, c'est de dire « Laurent Alexandre, il a raison, sauf si ». Voilà.
Mais sauf si. C'est-à-dire,
ben, sauf
comment
si,
on va éviter que les GAFA, Facebook, Google, Amazon prennent le pas et plus de puissance finalement que le politique?
Alors, si on veut s'en sortir, eh bien en réalité, c'est ce que je propose. Il faut mettre un vrai projet européen et français qui s'appellerait l'IA, intelligence artificielle, nation. Je prends un exemple. On a, vous le savez, pour stocker les données, on nous dit vous mettez sur un cloud dans votre smartphone, toutes vos données, vos photos, etc. Vous appuyez sur une option cloud. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vos photos, elles partent immédiatement et vos données bancaires, d'ailleurs, tout part aux États-Unis. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire un cloud européen pour qu'au moins, entre Européens, on puisse protéger. Alors, c'est vrai pour le citoyen, mais c'est surtout vrai pour les entreprises, qui sont du coup très vulnérables quand elles font tout partir aux États-Unis. Puis demain, on se dit, est-ce qu'on va les faire partir en Chine?
C'est pas un livre, Jean-François Copé, c'est un programme. Vous fourmillez d'idées.
Oui.
Vous avez 2022 en tête. C'est pas possible. Quand on lit ce livre, on se dit, prépare le coup d'après quand même.
Ouais, enfin, vous savez, regardez comment Kennedy a eu cette formidable idée de dire dans 10 ans, on envoie un Américain sur la Lune, le fameux programme Apollo. Plutôt que de se battre là, sur tous les sujets comme on le fait là, avec parfois, il faut bien le dire, beaucoup de médiocrité, de violence et de haine, pourquoi ne pas proposer un projet dans lequel tout le monde sera engagé? Parce que contrairement à ce que certains pensent, j'ai une divergence d'ailleurs avec Laurent Alexandre là-dessus, moi je pense qu'il y aura des emplois pour tout le monde, pas simplement pour les plus qualifiés, les plus...
C'est souvent le reproche qui est fait à l'intelligence artificielle,
oui,
la peur qui l'accompagne.
Mais moi justement, j'ai fait dans le livre un travail là-dessus pour montrer qu'il y aura beaucoup d'emplois qui sont menacés dans tous les domaines, hein, les médecins, les avocats, tout autant
vous
que...
Vous citez tous les rapports, ceux qui vont dans le sens de les pertes d'emploi et les
ceux
autres.
Qui, voilà, il y a des opportunités, comme il y en a toujours eu d'ailleurs, dans toutes les grandes vagues de progrès.
Alors, justement, ce livre et ce débat sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que c'est audible dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire là où on ne parle que de crise sociale et de gilets jaunes?
À la veille de l'acte 15.
Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Je pense que le gilet jaune, c'est les premières victimes de l'intelligence artificielle.
Dans quel sens?
Pour une raison très simple. Pourtant, on a écrit ce livre avant, naturellement, que cette crise arrive. Mais quand on lit notre livre, on a d'ailleurs cité un peu la situation, puisqu'on était en fin de rédaction, tout pour une raison très simple. les gilets jaunes du départ, je ne parle pas des extrémistes aujourd'hui, mais du départ, c'est d'abord un cri d'alarme face à l'overdose fiscale, mais aussi à qu'est-ce qu'on va devenir ? Que seront nos emplois demain ? Comment on va s'en sortir avec l'arrivée du numérique partout ? Et je peux vous dire que ça concerne des angoisses aussi bien de ceux qui ont mis des gilets jaunes que ceux qui n'en ont pas mis. Et donc, moi, mon point, c'est de dire l'intelligence artificielle est une des causes des angoisses aujourd'hui de ceux qui s'inquiètent, qui manifestent. Ça peut être demain une réponse, et une bonne réponse. Dès lors que on se mobilise, comme l'ont fait les Américains, et dans un autre registre les Chinois, pour justement faire de l'Europe et de la France un centre de recherche, de développement, d'application pour tous les métiers. Il ne faut pas craindre de faire en sorte que nos chercheurs, nos ingénieurs soient beaucoup mieux payés qu'ils ne le sont. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous incités avec des ponts d'or à partir dans la Silicon Valley, à Palo Alto, en Californie. On voit bien derrière tout cela les insuffisances d'investissement en matière de recherche qui sont un des points majeurs. Donc c'est pour ça que je dis, allons-y, mettons le paquet. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et moi, mon message, c'est
elle
de dire
que ça
doit...
Elle n'est pas là, la volonté politique, aujourd'hui,
pas
selon
suffisamment.
Vous Emmanuel Macron, il est assez sur la French Tech, il est assez précurseur, ouais, non
mais,
pas suffisamment,
mais,
selon vous
Vous regardez, il a fait une lettre aux Français pour le grand débat. Le mot intelligence artificielle n'est jamais prononcé. On ne parle pas de numérique. Alors que, parmi l'un des grands problèmes, il y a ce qu'on appelle la fracture territoriale, qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous avez des territoires entiers qui ne peuvent pas accéder à la fibre, au très haut débit, et qui donc sont pénalisés. Ça n'a aucun sens.
Jean-François Copé, on vous sent quand même très désabusé dans ce que vous dites. Il y a une citation qui m'a étonné de vous. Vous dites, quand on vous interroge sur l'avenir, je n'ai pas de plan parce que je ne vois pas très bien ce que peut réserver l'avenir à quelqu'un comme moi qui a beaucoup donné. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Écoutez, moi je vais vous dire, depuis que j'avais l'âge de 7 ans ou 8 ans, je n'avais qu'une idée en tête, c'était m'engager en politique pour servir la France. J'ai pris des coups sévères il y a 5 ans. Mais du coup, ça m'a amené à avoir une réflexion plus profonde, qui était de me dire, mais finalement, on fait tout ça pour quoi déjà ? C'est pour la France, et on prend des coups anormaux, alors qu'en réalité, on a notre part de sincérité. Après, il peut y avoir des désaccords, mais cette violence, pourquoi faire ? Tout ça est insupportable. Donc, aujourd'hui, c'est vrai... J'ai mon mandat de maire qui me passionne, avec mes administrés que j'adore. On fait des choses passionnantes, à mots. Par ailleurs, j'ai ma carrière d'avocat. Ben, je me dis que peut-être que tous ces génies qui étaient censés prendre la main il y a un an et demi, ben, ils font tellement mieux, ce nouveau monde tellement formidable. Donc on les laisse nous expliquer comment il faut faire. Et puis si un jour on peut...
Vous êtes encore dans la course.
Vous êtes
encore dans la course.
Écoutons le petit si de Jean-François
Copé.
Non,
mais en même temps, franchement, vous ne méprenez pas. Bien sûr, participer au débat public, j'ai une telle expérience que ne pas la partager avec mes concitoyens, ce serait dommage, de mon point de vue. Cet exercice que j'ai fait avec Laurent Alexandre, un scientifique et un politique pour parler d'avenir... Bah, c'est une manière de donner un autre sens au débat public.
Merci beaucoup Jean-François Copé. On rappelle le titre de ce livre, coécrit donc avec Laurent Alexandre. L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie, aux éditions La Thèse. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Sur Europe 1.
Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et après les brouillards matinaux, le soleil percera. Je m'y engage personnellement.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Avant votre journal, votre météo, grisaille matinale comme les jours précédents.
Oui, c'est vrai. Ouais, cette grisaille, on va la retrouver tous les matins jusqu'à dimanche au moins et surtout au nord de la Loire. Des nuages bas encore ce matin, brumes et brouillards parfois denses, hein, avec une visibilité réduite. Soyez prudents au volant ce matin. Des brouillards, on en a aussi quelques-uns sur la moitié sud, principalement le long de la Garonne et sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Pour les autres, ce sera déjà du soleil dès ce matin. Soleil qui va briller de plus en plus au fil des heures et qui reviendra dans l'après-midi sur la moitié nord, même si c'est vrai que le ciel va rester un petit peu voilé de la Haute-Normandie au nord de l'Alsace en passant par l'Île-de-France.
Mais ces petits brouillards, on les doit à la fraîcheur matinale.
Oui, oui, l'air chaud de la veille arrive sur les sols froids, un refroidissement qui provoque de la condensation. Une partie de cette vapeur d'eau présente dans l'air se transforme donc en brouillard. Et comme il va faire encore chaud, doux, voire chaud, on en aura encore chaque matin jusqu'à la fin de la semaine. Plus chaud, c'est vrai, cet après-midi, puisqu'on attend 21 degrés à Biarritz, 20 à Bordeaux, 19 à Clermont-Ferrand, 18 à Bourges et Nantes, 17 degrés à Paris cet après-midi, 16 à Lille et 13 pour la plus basse à Caen. En attendant ce matin, couvrez-vous tout de même, hein, parce qu'il fait de 0 à 12 degrés d'est en ouest, 0 à Strasbourg, il en fait 6 à Paris en ce moment, 12 déjà du côté de Biarritz. L'effet négatif de ce beau temps, parce qu'il y en a, c'est la pollution. Et oui, pic de pollution attendu aux particules fines aujourd'hui à Paris, à Marseille ou à Lyon. Le stationnement sera d'ailleurs gratuit à Paris aujourd'hui. Et puis on va mieux respirer dans les régions de l'Est demain et samedi grâce à un vent de nord qui va se mettre en place.
Merci beaucoup Céline. À suivre.
Une compétence journalistique inouïe, un charisme ébouriffant, une voix qui vous marque à vie. David Decamps arrive pour le journal de 6h30 et il a un message pour toi, fidèle auditrice.
Ah, tu vas atteindre le climax.
Et modeste avec ça.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans oublier vos zygomatiques, même si à Europe 1, l'heure n'est pas à la rigolade. Depuis quelques jours en effet, et ceci est vrai, une voiture folle hante le parking d'Europe 1. Cette voiture, dont la lunette arrière arbore fièrement un autocollant « Viva Portugal », selon des témoins, se déplacerait toute seule, bugnant ainsi les autres véhicules alentour. Comment une voiture peut-elle se déplacer toute seule ? Élément de réponse avec ce off de l'émission d'hier, espérons que les assureurs de véhicules endommagés soient à l'écoute. À l'écoute.
Je peux vous dire un truc ou pas ? Il faut que... J'ai encore oublié de mettre le frein à ma voiture. M'a dit Mému. Donc si vous voyez Philippe... Parce qu'il a été me remettre mon frein au toit. J'ai encore oublié de mettre le frein à ma voiture, visiblement.
Elle a oublié son frein à main deux fois. Céline, comme le dit la chanson, vous êtes vraiment phénoménale.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h07, Mathieu Noël.
Un peu de sérieux nous fera du bien. Voici le journal de 6h30 présenté par David Decamps. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
On a rarement vu rapport aussi accablant. Les sénateurs de la commission d'enquête du Sénat étrillent l'Elysée. Ils pointent des dysfonctionnements majeurs ayant trait à la sécurité du président, mais aussi des parjures. Des suites judiciaires sont à prévoir. Une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Déclaration d'Emmanuel Macron au dîner du CRIF. Il reconnaît l'antisionisme comme partie intégrante de l'antisémitisme. Il annonce une loi pour contrer la haine sur Internet. Et enfin, mon cher Mathieu, vous qui pratiquez le breakdance, vous allez être content. Il fait son entrée aux Jeux Olympiques en 2024 avec le surf, l'escalade et le skateboard.
Europe 1.
Les coups de boutoir du rapport sénatorial sur l'affaire Benalla. L'Élysée est directement mis en cause pour de graves dysfonctionnements, notamment liés au rôle joué par l'ancien chargé de mission dans la sécurité du président. 4 enquêtes de justice sont déjà en cours sur les faits du 1er mai, les passeports diplomatiques, le contrat russe et les soupçons de dissimulation de preuves depuis la semaine dernière. Et maintenant, la commission demande une nouvelle instruction pour mensonge sous serment. Pierre de Cossette.
Un coffre-fort qui disparaît étrangement du domicile d'Alexandre Benalla juste avant que les policiers ne viennent perquisitionner. C'était en juillet dernier. 7 mois plus tard, aucune explication et curieusement, jusque-là, aucune enquête pour percer le mystère. Le procureur de Paris s'y est résolu la semaine dernière parce que les éléments intrigants se sont accumulés. Benalla aurait demandé à quelqu'un d'embarquer le fameux coffre. Et puis il y a cet enregistrement clandestin, une conversation avec Vincent Crase durant laquelle les deux hommes évoquent l'idée de faire le ménage dans les locaux de La République En Marche. Entrave à la manifestation de la vérité, la 4e enquête qui vise Alexandre Benalla et le parquet pourrait bien en ouvrir une 5e pour parjure devant la commission d'enquête du Sénat. De Benalla, de Crase, mais pas seulement. Les sénateurs s'interrogent aussi sur les déclarations de 3 hauts responsables de l'Élysée. Patrick Strauda, le directeur de cabinet, Alexis Kohler, le secrétaire général et le général Lavergne, le chef du GSPR, le groupe de sécurité du président de la République. Les sénateurs estiment qu'ils ont retenu une part significative de la vérité, peut-être pour cacher le vrai rôle d'Alexandre Benalla dans le dispositif de sécurité du chef de l'État.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute que l'hebdomadaire Valeurs Actuelles révèle qu'Alexandre Benalla a également signé un contrat de sécurité avec une société chinoise pour un montant de 7,2 millions d'euros. Il s'agit d'un groupe réputé proche de l'appareil d'État chinois. Contacté par nos confrères, l'ancien chargé de mission affirme qu'il ne s'est jamais servi de sa position à l'Élysée pour négocier un contrat. Les noms d'autres protagonistes pourraient apparaître dans ce dossier. Le discours d'Emmanuel Macron hier soir au dîner du CRIF devant le Conseil représentatif des institutions juives de France, le président de la République a parlé, je cite, « d'une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale ». Il a annoncé une loi qui sera présentée au mois de mai pour contrer la haine sur Internet. Et puis, sur le sujet de l'antisionisme, le chef de l'État a fait usage du « en même temps ». Pas question de légiférer pour interdire la critique d'Israël, mais il dit oui à l'adoption d'une nouvelle définition de l'antisémitisme. On l'écoute.
L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. La France mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Il ne s'agit pas de modifier le code pénal, encore moins d'empêcher ceux qui veulent critiquer la politique israélienne de le faire, non. Il s'agit de préciser et raffermir les pratiques de nos forces de l'ordre, de nos magistrats, de nos enseignants, de leur permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël, la négation même de l'existence d'Israël, la haine du juif la plus primaire.
Emmanuel Macron hier soir au dîner du CRIF. Pédophilie dans l'Église, le Vatican ouvre aujourd'hui un sommet historique. Le pape François a convoqué les 114 présidents des épiscopats. Ils viennent du monde entier pour participer à 3 jours et demi de séminaire. Objectif du souverain pontife, les convaincre de leur responsabilité individuelle face aux agressions sexuelles sur mineurs. Et si nous limitions l'usage du plastique ? C'est le sens d'un pacte qui sera signé ce matin entre le gouvernement et 13 grands groupes, dont Danone, Coca-Cola ou L'Oréal. Un engagement pour réduire les emballages. Lors d'Autriche.
Les emballages représentent 60% du plastique que l'on retrouve dans la nature et les océans. Face à ce constat, le groupe Nestlé est en train de remplacer ses boîtes de chocolat en poudre Nesquik par un emballage composé à 100% de papier. Autre exemple, très bientôt dans les supermarchés Carrefour, terminer les barquettes en polystyrène, le fromage à la coupe sera emballé dans du carton recyclable et il faut s'attaquer aussi aux emballages des fruits et légumes, explique Bertrand Zwiderski, directeur du développement durable de Carrefour.
Vous voyez par exemple, on a notre banane bio équitable. La banane, il faut savoir que c'est le premier chiffre d'affaires d'un rayon fruits et légumes d'un grand magasin. Elle était dans un sac et demain elle sera juste avec un bandeau et ça nous fera économiser environ 25 tonnes de plastique. Aujourd'hui, pour que le système soit viable, il n'y a pas d'impact sur le prix.
Il est difficile de légiférer sur la question du suremballage, confie un conseiller au ministère de l'écologie, car les entreprises mettent souvent en avant des arguments sanitaires, mais le gouvernement ainsi que des ONG vérifieront chaque année que ceux qui ont signé le pacte respectent bien leurs engagements.
Lors d'Autriche pour Europe 1.
À suivre dans ce journal, peut-on trouver du travail sans avoir de diplôme ? La réponse est oui. Panorama des secteurs qui embauchent dans un instant. À tout de suite.
Il est 6h35. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le Centre d'information et de documentation jeunesse, publie aujourd'hui un guide complet des secteurs qui recrutent le plus en ce moment.
Oui, et Europe 1 a pu le consulter en avant-première. C'est un panorama des 50 filières les plus porteuses et pour de nombreux jobs, pas besoin d'être diplômé. Aurélien Fleureau.
Parmi les métiers accessibles, même sans avoir fait de longues études, il y a principalement ceux du commerce et de l'hôtellerie-restauration, mais il y a aussi des secteurs moins connus, robotique, mécanique industrielle ou encore fibre optique. Encore faut-il être au courant. C'est pour cette raison que Gwendoline, qui est en reconversion professionnelle, s'est rendue au CIDJ.
Je veux changer de travail, mais je ne sais pas où je vais aller. C'est qu'est-ce que je peux faire après et quel domaine recrute le plus, quoi, où il y a des débouchés surtout. Peut-être qu'il y a des métiers que je ne connais pas qui recrutent. Et voilà.
Recenser les secteurs qui embauchent et qui proposent en même temps des formations pour les moins diplômés, c'est aussi la démarche du CIDJ, explique Michel Tardy, le coordinateur du guide.
Par exemple, un métier qui s'appelle agent de stérilisation, qui est un métier à la frontière entre le secteur de la santé et de la propreté. C'est un métier très impacté par les départs à la retraite et le turnover. Donc on recherche aussi bien des hommes que des femmes, soit un bac professionnel, soit un titre d'agent de stérilisation en milieu hospitalier.
Des informations indispensables puisque les jeunes sans diplôme sont 3 fois plus nombreux à être au chômage que les diplômés du supérieur.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Il est temps maintenant, Mathieu, de révéler au public votre passion pour le breakdance. Je vous ai vu bouger.
Ouais,
c'est remarquable. Et c'est donc un grand jour pour vous puisque Paris 2024 va publier aujourd'hui une sélection de sports qui seront invités aux Jeux Olympiques. Et selon les indiscrétions de Corinne Boulou, le breakdance pourrait en faire partie.
Une vingtaine de fédérations internationales reconnues par le CIO se sont manifestées. Du squash à la pétanque, en passant par le billard, les échecs, le vol en soufflerie ou la pelote basque. Il faut dire que la visibilité et l'écho mondial que donne cet événement est inégalable. Au final, beaucoup de candidatures, mais peu d'élus. Et si à Tokyo en 2020, le skateboard va faire son apparition au programme olympique, aux côtés du surf ou de l'escalade, eh bien à Paris, vous allez sans doute découvrir le breakdance, autrement appelé le hip-hop. En attendant confirmation, le président de la Fédération française de danse, André Ferreira, se réjouit d'une expérience unique.
C'est un moment historique pour la danse en général et pour le break en particulier, puisque si la danse rentre aux Jeux Olympiques, ça sera un grand moment. C'est une discipline aujourd'hui qui est pratiquée dans le monde entier et qui attire plus particulièrement la jeunesse. Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que les Français font partie des meilleurs danseurs de hip-hop au monde.
Et pour les sports non retenus par le comité d'organisation, eh bien, ils seront peut-être invités à la fête olympique dans Paris, mais d'une autre manière.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe.
Oui, et en foot. Non, pas de foot.
Non, mais parce que c'est important, le foot. Votre réalisateur m'avait demandé de ne pas le faire.
Oui, mais c'est moi qui décide, parce que le réalisateur exécute. Voilà.
C'est qui le patron?
C'est peut-être temps que vous accordiez vos violons. Alors, en foot, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a battu Montpellier 5-1.
Et oui,
en
important.
Ligue des Champions, voilà. La fin des huitièmes de finale aller. Manchester City a battu 3-2 Schalke-Fir. Et l'Atlético Madrid a battu la Juventus Turin 2-0.
Schalke-Nunfir même.
Oui, si Schalke
Fir, c'est Schalke 4. Merci, c'était le journal de David Doucan, le seul journaliste d'Europe 1 capable de s'éblouir lui-même. Un moment de grâce assez rare qui s'est produit hier au détour d'un lancement particulièrement bien ficelé, enfin, dixit Doucan lui-même. Ce n'était pas facile de rendre digeste un aussi long lancement, mais il l'a fait. Et pour cela, il s'est tiré son chapeau à lui-même.
Alexandre Benalla
a été placé en détention provisoire. Il a échangé avec Vincent Crave alors que cela lui était interdit ce matin à 11h.
Tu vois, ça c'est un lancement qui est interminable, mais vous ne vous êtes pas ennuyé. C'est ça le talent.
Encore bravo David.
Ouais, en fait.
Non. Je vous laisse vous remettre la coupe à vous-même.
Non, mais on n'est jamais mieux servi par soi-même.
Mais vous avez bien raison, mon grand. Je pense aussi.
Si on est là à attendre les compliments, on peut attendre longtemps.
Vous avez raison, il faut être proactif en ce domaine. Nous, on passe à la météo avec vous, Céline Dacosta. Oh, du soleil, vous m'avez dessiné un soleil sur la feuille pour me faire comprendre que faisait beau.
Quand même je suis pas encore au niveau de Sébastien Bordonnave, au niveau du dessin.
Notre producteur qui dessine beaucoup pendant l'émission.
Exactement, mais je me débrouille. Alors, il sera bien présent ce soleil cet après-midi, un petit peu partout, après dissipation de la grisaille matinale, présente surtout sur la moitié nord. Soleil et douceur, hein, puisque la moyenne cet après-midi ira de 13 à 21 degrés du nord au sud. On attend 17 degrés à Paris.
Merci,
oui,
Céline.
C'était court, mais efficace.
Intense.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui zigzague entre l'info et l'humour comme un petit dragster sous acide. À suivre, Eva, vous savez qui nous rejoint, n'est-ce pas?
Deux hommes blancs, expérimentés certes, mais pas tout jeunes.
Et oui, oui, Mickaël Darmon et Axel de Tarlé forment avec vous les trois fantastiques, politique, économie, médias. Leur vision de l'actu vous permet de vous forger la vôtre. Au sommaire notamment cette question, que va répondre l'Élysée au placement en détention provisoire d'Alexandre Benalla? Et ce constat, vous êtes désormais plus de 1 sur 3 à le faire. Non Céline, non, le télétravail, est-ce vraiment l'avenir? On en parle dans un instant.
Il est 6h42. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les suites du rapport du Sénat sur l'affaire Benalla, la commission demande une nouvelle enquête pour parjure et pointe de lourds dysfonctionnements à l'Élysée, en particulier sur le rôle joué par l'ancien chargé de mission dans la sécurité du chef de l'État. Une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, déclaration d'Emmanuel Macron au dîner du CRIF. Il reconnaît l'antisionisme comme partie intégrante de l'antisémitisme, il annonce une loi pour contrer la haine sur Internet. Enfin, pédophilie dans l'Église, le Vatican ouvre aujourd'hui un sommet historique, le pape François a convoqué 114 président des épiscopats. Objectif du souverain pontife, les convaincre de leur responsabilité individuelle face aux agressions sexuelles sur mineurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Quand il débarque dans ce studio, on croirait voir Freddie Mercury et ses comparses arriver à Wembley en 86. Ne manque que les hélicoptères. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, si toutefois il arrive. Axel de Tarlé pour l'économie, nous ont rejoints
toujours
pour cette
présent.
Séquence qu'on ne regrette pas d'avoir baptisée en début de saison les trois fantastiques. Par la qualité de leur analyse sur l'actu, ils le méritent. Même si l'autre pilote qu'on avait fait à l'époque avec Céline Dacosta et qui se serait appelé le Café des Grands Esprits était prometteur aussi. Le concept,
ouais,
chaque jour, Céline aurait exprimé son sentiment sur l'actu accoudé aux zincs d'un troquet devant un picombière et un bol de cahuète.
La Garfield sans ses lunettes, c'est comme Michou sans ses lunettes.
Ça aurait été pas mal non plus finalement.
Ou Maître Gims
sans ses lunettes. Mais finalement, on a opté pour les fantastiques. On commence donc non pas par la politique, vu qu'on l'attend, mais par vous, Axel de Tarlé, par l'économie. Le télétravail se développe en France. Il concerne désormais plus de 5 millions de salariés du secteur privé.
Voilà, c'est une enquête IFOP pour le groupe d'assurance Malakoff-Médéric. Le télétravail concerne maintenant 29% des salariés du privé. Avant, c'était 25%. Il faut dire que les ordonnances Macron ont simplifié le télétravail qui, maintenant, par exemple, on n'a plus besoin de changer votre contrat de travail pour, si vous voulez faire du télétravail.
Ah, c'était le cas avant?
Il fallait changer le contrat de travail. Alors, attention, quand on dit télétravail, ce n'est pas 100% chez soi. Hein, c'est occasionnel, d'ailleurs, c'est souvent informel. C'est-à-dire qu'en moyenne, on fait 7 jours de télétravail par mois. Et en fait, pourquoi ça se développe ? Eh bien, c'est parce que tout le monde y trouve son compte. Les employeurs y trouvent leur compte. Vous savez pourquoi ? Ben d'abord parce qu'ils ont remarqué que les salariés culpabilisent et donc ils ne sont pas du tout chez eux à regarder la télé ou à faire la sieste. Ils travaillent énormément parce qu'ils disent « Oh là là, je ne suis pas au bureau ». Et donc, comme ils culpabilisent, ben ils travaillent davantage. Et puis, deuxième avantage pour les employeurs, un gain de place. Eh ben oui, il n'y a pas de bureau. Donc, vous voyez, donc ils peuvent avoir des bureaux plus petits. Côté salarié maintenant, deux avantages. Ben ça qu'on imagine très facilement. Quel est l'avantage du télétravail ?
Un gain de temps.
On n'a plus le trajet, l'aller-retour.
Ça, pour beaucoup de Français qui passent 40 minutes dans les transports par jour.
Ça change tout. C'est près d'une heure. Le deuxième gain du télétravail, le deuxième avantage, c'est l'autonomie. Bah, on peut s'organiser comme on veut. Si on a un rendez-vous chez le médecin, on peut travailler un peu le soir. On peut amener les enfants à l'école.
Je dis attention. Car moi qui pratique le télétravail l'après-midi, car j'écris une grande partie de cette matinée l'après-midi, bah quand je suis ici, à Europe 1, au moins j'ai pas de pause, tandis que chez moi, je suis tenté de me lever pour aller
faire
prendre
un petit café,
des petits chips, un petit bout de fromage, et tout ça, c'est pas bon pour la ligne et c'est pas bon pour la productivité.
Objection, votre honneur. Quand vous êtes dans le RER ou dans le métro, dans les temps de trajet, vous ne travaillez pas. Alors que ce temps est récupéré et que vous êtes chez vous à travailler, ça marche mieux.
C'est vrai. Alors, quels sont quand même les points négatifs ?
Évidemment, il y a toujours des points négatifs dans une aventure. Côté salarié, bah justement, c'est le revers de la médaille, c'est que salarié a tendance à trop travailler. Comme il culpabilise, je vous ai dit justement, de ne pas être avec ses collègues au bureau, et bah, il va être chez lui, il va avoir tendance à trop travailler. Et du coup, il ne va plus avoir une frontière nette entre vie professionnelle et vie privée. Donc ça, c'est un point négatif. Deuxième point négatif, il est tout bête, mais quand on est chez soi, bah, on utilise son stylo, son imprimante, son papier, ses enveloppes, et donc ça a un coût qui n'est pas pris en charge, parce que l'employeur n'avait pas tenu d'ailleurs de prendre en charge.
On ne peut pas compter en frais.
Les petites charges annexes, etc. Côté employeur, et bien la limite du télétravail, c'est que le salarié, il s'émancipe un petit peu, il est chez lui, il obéit moins au chef, et du coup le chef, il se sent un peu comme un général sans troupes. Un chef, c'est fait pour cheffer, et donc il y a la grande solitude du chef qui a l'impression de perdre la main et même de perdre...
Et puis, il y a aussi l'émulation collective qu'on peut avoir dans une entreprise quand on est dans un cadre de travail. Quand on est chez soi, il faut une certaine force morale pour se mettre au travail.
C'est pour ça que 100% de télétravail, ce n'est pas la bonne solution. Mais cette solution-là, 7 jours par mois, c'est très bien. Et on le voit quand même, au final, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients.
Merci beaucoup, Axel de Tarlet. Et Varoc, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Alors, écoutez, c'est un documentaire édifiant qui est proposé par Envoyé Spécial sur France 2 à 21h. C'est la plus grave crise sanitaire que vivent actuellement les États-Unis. 72 000 morts en 2017, 300 000 en 20 ans, des morts par overdose par opioïdes, à savoir des médicaments qui sont prescrits pour des douleurs chroniques et qui provoquent chez les patients un état de dépendance. Écoutez un des témoignages recueillis par les journalistes.
La première fois que je suis allé voir le médecin spécialiste de la douleur, il m'a donné 480 pilules antidouleurs, juste pour un mois. Mais rapidement, ça n'a pas suffi. J'ai commencé à en prendre de plus en plus et très vite, je suis devenu accro aux pilules. La sensation de manque, quand vous ne les avez plus, c'est insupportable. Parfois, on voudrait juste être mort.
Images de personnes décédées par overdose dans la rue ou dans leur voiture, témoignages glaçants des policiers, des victimes, des avocats. Pas des laboratoires ni des médecins qui ont évidemment refusé de répondre. Permettent d'établir une enquête solide et complète sur ce sujet. Des morts sur ordonnance qui font des dégâts sociaux parce que les Américains s'endettent pour pouvoir acheter ces antidouleurs. Et puis des dégâts surtout auprès des enfants qui naissent en ayant besoin d'être sevrés. C'est comme ça que débute cette enquête. Une ancienne commerciale pour un des laboratoires incriminés qui s'appelle Purdue est devenue lanceuse d'alerte et elle raconte comment elle incitait les médecins à prescrire ces pilules du malheur.
C'était en fonction du dosage. Si le médecin prescrivait beaucoup de 10 ou 20 mg, vous touchiez un certain bonus. Beaucoup de 30 ou 40 mg, 60 ou 80, un bonus plus élevé. Car plus les dosages sont élevés, plus les pilules sont chères et plus l'entreprise gagne d'argent. Donc plus vous dépassiez vos objectifs de vente dans les dosages forts, plus votre prime était importante.
Purdue, déjà condamné en 2007 à une grosse amende, continue pourtant à distribuer en toute impunité ses antidouleurs. Une nouvelle procédure est d'ailleurs en cours. 300 avocats travaillent sur ce dossier. Mais il va falloir beaucoup de temps pour arrêter cette épidémie et sauver les patients. La France n'échappe pas à ce problème sanitaire, évidemment dans d'autres mesures, mais vous le verrez avec un autre sujet qui est plus court et qui est réalisé près de Grenoble. Documentaire effrayant. Et je vous recommande d'ailleurs sur ce même sujet une série de reportages qui avait été réalisé par Xavier Yvon, notre correspondant européen aux États-Unis. Reportages diffusés dans Carnet du Monde et qui sont toujours toujours disponible sur europe1.fr ou l'application.
Merci beaucoup Eva Roch, merci Axel de Tarlé. Quant à Mickaël Darmon, on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, même si on a quand même un faisceau de présomption.
Comme chaque année, elle est au rendez-vous, la fidèle gastro.
Oh non !
L'équipe des deux fantastiques et des trois, on l'espère, sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart. Lavez-vous bien les mains.
Europe 1. Il est 6h52, naturellement.
Debout les copains s'apprêtent à s'éclipser, mais pas avant d'avoir débriefé aujourd'hui avec la bonne foi qui fait ma marque de fabrique, la matinale de Nikos Aliagas. Car oui, les amis, le meilleur est à venir. Et je vous connais, chers auditeurs, vous êtes de nature anxieuse. Vous vous demandez si en matière de ridicule, vous serez servi ce matin. Rassurez-vous.
Twist and shout.
Twist and shout.
Je vous sens déjà rassuré.
Il est 6h50. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève, mais pourquoi s'en plaindre quand on sait que le meilleur est à venir ? Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, qui le sait, je fais chaque matin mon travail en conscience, je suis incorruptible.
Je vous sers un peu de saumon ?
Non Nikos, ne cherchez pas à m'amadouer, même si entre nous, en cette saison, une bonne truffe d'Alba et je peux fermer les yeux sur pas mal de choses. En attendant de trouver cette éventuelle truffe dans le tiroir de mon bureau, il va vous falloir composer avec l'analyse de votre émission d'hier, une émission une fois de plus placée sous le signe de l'investigation avec un grand I. Carole Ferry, notre envoyée spéciale permanente sur le terrain, qui, signalons-le au passage à la DAS, n'a plus vu ses enfants depuis 6 mois, était hier, où était-elle donc ? En Irak ? En Afghanistan ? Non, dans un bus dans le Cher. Bon, ok, c'est pas Alep, hein, c'est pas la dernière poche de résistance de Daesh en Syrie, mais bon, ce qui compte, c'est que les journalistes en plateau donnent le change en s'émerveillant. Et là, je dois dire que vous faites le job.
Carole, vous êtes où ce matin ?
Eh bien écoutez, je suis dans un bus, mais un bus pas comme les autres. Hein. Il y a un comptoir, c'est un bar truck.
Soyez prudente quand même, Carole hein. Hier, le 7-9, c'était donc du journalisme d'investigation, mais aussi des instants plus légers, plus intimistes aussi, où l'émotion, prime sur l'information, comme ce touchant décrochage nostalgique de celui qui n'a pas toujours été le grand Nikos Aliagas, mais qui était jadis le petit Aliagouné. Un enfant sensible, fragile, qu'on peut raisonnablement imaginer en léger surpoids, vu sa prédilection pour les tartines de hummus. Non, c'est pas le cas. Un enfant odieusement blessé par l'injustice scolaire.
Quand on était à l'école, on avait des punitions. Moi, on m'avait piqué mes bons points à l'époque.
C'est vrai.
Et Madame Salard, elle me les a jamais rendus.
Jamais.
Jamais.
Je m'en suis jamais
remis. On peut peut-être lui envoyer un message ce matin.
Oh, elle est certainement morte.
J'ai pas osé la tenter. C'est marrant parce que j'avais écrit ça et je l'ai enlevé. Je me suis dit, ça va trop loin. Mais, bref, s'étant ému lui-même, Nico s'était ensuite prêt pour le nécessaire hommage qu'il fallait rendre hier à l'immense couturier créateur Karl Lagerfeld. Un hommage en forme de cri du cœur.
Son humour, son côté subversif dans la mode, sa liberté et certainement cette tenue de route.
Là pour une tenue de route optimale, même sur Ronage verglacé, optez pour les pneumatiques Lagerfeld. Bravo Nikos.
Je cherchais mes mots. Il y a ce qu'on déteste à la radio.
Non, mais il y avait quelque
radio.
Chose après, hein, vous n'avez pas terminé comme
oui,
ça.
Oui, il y avait mieux. Non, y avait mieux, je crois.
Oui, mais moi j'ai coupé la tenue de route parce que pour moi c'était climax.
Parce que je réfléchis, je cherche mes mots et puis t'as le t'as un E ridicule au milieu. T'entends bien.
Je l'ai laissé volontairement.
Je vois. Merci pour toutes ces délicatesses matinales. Merci.
Mon plaisir, Nico.
Là, je suis gonflé à bloc pour 2 heures d'info.
Ben, mais tu m'étonnes.
Merci Eva Roch, merci Mathieu Noël. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Nico.